Bonsoir, bienvenue dans Onde Noire, l'émission polar la plus rock de la bande FM.
Présentée par
Corinne
et Jacques. Bonsoir, et donc au sommaire de cette émission, on va parler tout de suite de la deuxième partie, nos coups de cœur. Et si je parle déjà de la deuxième tranche, c'est pour mieux vous présenter notre invité du jour, Jean-Hugues Gopel, bonsoir.
Bonsoir.
Et merci de nous rejoindre. Donc, une petite présentation très rapide, vous êtes l'auteur d'une quinzaine de romans adultes, je crois.
À peu près
autant de polar jeunesse.
Pour l'instant, c'est bon.
Pour l'instant, tout va bien. Et petit pavé dans la mare, si vous nous rejoignez ce soir, c'est pour nous parler d'un livre dont vous n'êtes pas l'écrivain, dont vous n'êtes pas l'auteur. Je me trompe toujours pas, au fait.
Toujours pas, ça s'appelle Adaptateur.
Voilà, Adaptateur. Donc, on va dévoiler le secret. Le recueil dont on va parler, puisque c'est pas vraiment, je ne vais pas appeler ça un roman, c'est un magnifique album qui s'appelle Trouille, paru chez Casterman Rivage. C'est une BD adaptée donc d'un roman de Marc Bem, roman qui date de 1990, qu'on a pu trouver en France à partir de 1993. Les dessins, l'illustration est de Joe Pinelli et les couleurs de Sébastien Orsini. Alors, pour ne pas paraître trop bavarde, est-ce que vous pourriez nous rappeler le principe de la collection d'abord?
Pour faire court, bon, d'un côté, le meilleur éditeur de romans noirs français, de polar français, Rivage, puisque c'est mon éditeur, c'est forcément.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Rappelez-nous votre éditeur, n'est-ce pas?
Oui, c'est comme c'est le mien. Enfin, disons une fort belle collection, un fort beau catalogue. De l'autre côté, une maison d'édition de bande dessinée qui s'appelle Casterman, qui n'est pas parmi les plus mauvais non plus. Et donc, synergie des deux, un auteur, un dessinateur, enfin, qui n'en veut, choisir un titre du catalogue Rivage Noir. Et donc, l'adapte et le transpose dans l'univers de la bande dessinée. Alors, certains le font tout seul, d'autres le font à deux, d'autres le font à trois. Nous, on l'a fait à trois parce que Joe voulait confier la couleur à quelqu'un. Et donc, voilà, à partir de là, ça se joue. Quelqu'un prend un livre, donc il faut après tout le mettre à plat, le transformer en scénario de bande dessinée. L'artiste fait des cases, des petits dessins.
Surtout de très beaux dessins. Comme on a l'adaptateur avec nous ce soir, on va essayer de creuser un peu parce que c'est quand même une belle histoire, cette idée d'adaptation. Donc déjà, comment on réagit en tant qu'écrivain quand on va adapter ce qu'on peut appeler un collègue? On y va reculons, on y va franco?
Non, pas forcément. C'est plus facile d'adapter un collègue que soi-même, moi je pense, parce que comme ça, on a moins de scrupules.
Et si tu viens de bouffer une question, pardon.
En plus, le collègue étant mort, on est tranquille, il risque pas de venir vous ennuyer. Le pauvre chéri est là.
Ah, les fantômes, faites gaffe.
Ouais, on a quitté un peu tout. Non, mais en ce sens, c'est-à-dire, c'est à la fois jouissif, inquiétant, c'est toujours un grand principe. Moi, j'ai retrouvé mes premiers amours, puisque j'ai travaillé dans le cinéma, bien qu'étant caméraman. J'ai quand même eu les scénarios qui me sont passés entre les mains. L'adaptation, c'est toujours le principe. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on garde pas, trahir, pas trahir. Mais c'est intéressant. En plus, dans le cas de Marc Bem, pour les auditeurs qui ne connaissent pas forcément, il est surtout connu pour avoir écrit Mortelle Randonnée,
adapté au cinéma.
Mais d'autres choses, moi j'ai un préféré, je crois que c'est un peu d'à côté de la plaque.
Tout à fait.
Un genre de fou furieux, mais Sanjo voulait absolument pas le faire en dessin, mais il m'a interdit formellement, donc on s'est rabattu sur l'autre. À partir de là, la matière, c'est de déjà lire le livre une première fois pour savoir si ça nous plaît, parce que si ça nous plaît pas...
C'est un bon début, lire le livre, effectivement.
Voilà, lire le livre. Après, on le relit avec plusieurs stylos de couleurs pour après sortir les personnages, les lieux, les dates, et surtout, je dirais, trouver... la bonne adaptation, c'est pas forcément celle qui sera fidèle, mais c'est trouver, le point de vue, l'idée force. Qu'est-ce que ça raconte? Après, le reste, on va transposer.
Alors, justement, donc, vous m'avez bouffé quatre de mes meilleures questions. Ça va pas du tout, cette histoire-là. Alors, on reprend. Donc, d'abord, on va peut-être un petit peu parler d'histoire, un petit peu le pitch, évidemment, sans dévoiler la fin, bien évidemment, mais qui est ce Joe?
Joseph Egan Bidjo, tout petit, a rencontré une magnifique blonde et à chaque fois qu'il la rencontre, quelqu'un meurt. J'en dis pas plus. Vous l'imaginez donc plutôt qu'en blonde, avec un grand sueur sur la tête et une foule à la main.
Voilà.
Donc Joe va passer son temps à fuir cette dame, puisqu'il pense que moins il la rencontrera, plus il mettra de distance entre elle et lui, moins il a de chance d'y passer.
Et c'est jusqu'à 38 ans, il arrive à peu près à y échapper et après ça s'accélère.
Ça se gâte un peu, on va dire, parce que après chacun y voit quoi que ça marche ou que ça marche pas. La grande question, en plus, je ne tranche pas dans le livre, on ne sait pas si cela est vrai, bien sûr. La seule chose qui est vraie, c'est qu'effectivement, dès qu'elle se pointe, quelqu'un meurt, ça c'est sûr.
Et la seule chose qui est vraie, c'est que dès que Joe voit cette magnifique blonde, lui, il se barre.
Ah, il se barre parce qu'il est méfiant. C'est un garçon méfiant, dans la vie, quand même.
Oui, bah, déjà, avec les belles blondes, à mon avis, il faut se méfier. Oui. Mais ça, c'est un avis très personnel.
Non, ça, je partage aussi.
Donc, il
se bat parce qu'il pense que le message est pour lui. Quand il était petit, à chaque fois qu'il est arrivé, quelqu'un d'autre est mort. Donc il se dit, ça peut pas durer. Et le problème, c'est qu'à chaque fois qu'elle se pointe, de préférence, ça va bien pour lui. Donc c'est quand même un sacrifice.
Voilà, donc ça, c'est l'histoire, on peut dire, objective. Voilà. Et vous, quand vous avez relu le livre avec vos petits crayons de couleur ou vos petits feutres, quel était le point de vue, quelle a été, la petite lorgnette que vous avez eu envie de développer, d'adapter? Donc c'est là qu'on parle d'adaptation.
Sur l'adaptation, garder, je dirais, ce fil linéaire, il arrive quand même péripétie à Joe. Alors après, c'est moi, peut-être que je me trompe, mais quand on lit, c'est l'histoire d'un homme qui ça s'appelle Trouille. Alors, en plus, même le titre original, c'est carrément Mort de Trouille.
Mort de Trouille,
ou Trouille à mort, enfin bon.
Oui, Mort de Trouille.
Dans l'expression, donc c'est quelqu'un qui a peur, et si on lit bien, il rencontre plein de gens qui ont aussi peur de quelque chose. Généralement, c'est de leur santé, d'être pauvre, d'être malade, enfin bon, de leur tension artérielle et autres. Et j'ai eu le fil directeur, c'est peut-être de construire quelque chose, c'est une histoire de gens qui ont peur. Alors, est-ce que c'est ce que Marc pensait? Je pense quand même, parce que cette histoire, c'est toujours métaphorique, un peu là. La peur de mourir, je pense qu'on l'a tous, la peur d'être malade aussi, donc j'ai essayé de tourner ça autour de ça. Et puis le reste après, c'était surtout comme le livre lui-même est assez décousu, ça m'a permis justement de ne pas respecter forcément un ordre, l'ordre chronologique.
L'ordre chronologique, oui.
Et lui-même ne le respectant pas, ça permettait de bien désinquer ça.
Et encore une fois, pour creuser un peu le travail qui vous a occupé quelques mois, de Chopinelli et vous-même, c'est un truc ensuite qu'on décide ensemble avec l'illustrateur. Je pense qu'il faut qu'il suive votre idée directrice.
Dans ce cas-là, moi, je ne connaissais pas du tout.
Ou alors vous êtes carrément dictateur.
Non, je suis un bon garçon. Là. Je ne savais pas, j'ai eu 2-3 projets de BD il y a très longtemps, mais j'ai jamais réussi à savoir comment on faisait. Moi, j'ai mis à plat... un film directeur, j'ai fourni à Joe mes idées, comment je voyais les personnages. On s'est fait une petite carte des États-Unis parce que le camarade voyage beaucoup, il lit beaucoup, donc je lui ai fait une liste de ses lectures, je lui ai fait une liste des femmes qu'il rencontre. Enfin, j'ai fait plein de listes, et à partir de là, pour donner un petit peu l'atmosphère, j'ai donné un fil directeur parce qu'on a retrouvé un petit peu sans trop se prendre la tête. On va dire apprentissage, rencontre, fuite, etc., dans des grandes parties. Puis après, j'ai donné un fil directeur à lui. Alors, c'est pas évident, parce que soit on écrit page 1, 4, 15, 20, 15, 1, ceci, cela, ben, autant dessiner soi-même, mais je dessine comme un cochon. En même temps, si on lui dit dans les 10 premières pages, Joe pêche à la ligne, ça peut, c'est assez libre.
Oui.
Donc ça, j'ai eu un peu des deux, mais je pense que la collaboration a bien marché dans le sens où il y avait suffisamment de place pour lui soit outrepasser mes envies, soit les transformer, soit les adapter à son tour.
Alors une fois que le point de vue et le fil conducteur, cette expression convient parfaitement, le fil conducteur est défini, comme on l'a dit, c'est pas du tout un résumé, c'est vraiment une adaptation. Donc... Comment vous avez choisi, parce que en étudiant un peu le livre et l'album, la bande dessinée, vous avez pioché des phrases?
Toutes,
voilà. Donc, oui. Vous n'avez pas réécrit. C'est à chaque fois des phrases qu'a écrit Marc Bem.
À 90%, il faut être honnête. Il faut toujours se garder 10% de plaisir. À 90%, c'est des phrases de Marc Bem. C'est des phrases de Marc Bem, peut-être mis dans un sens différent. Parfois, un personnage dit quelque chose qu'un autre disait.
Et il y a des fois des timings, me semble-t-il, qui ont légèrement changé. Oui. Peut-être pour la cohérence de votre histoire à vous, quand même.
Pas que pour la cohérence, c'est par exemple le résumé, on va dire, 3 actions différentes en 3 temps différents, les ramener en une seule. Donc là, on doit tricher un petit peu, là, faut être honnête. Il y a 10%, je dirais, d'écriture personnelle qui sont mais toujours dans l'esprit, essayer de trouver la même métrique, le même langage que le bouquin, sachant que j'écris en français, donc en me basant sur la traduction. Là, je peux pas dire si je respecte le texte original.
Oui, ça, de toute façon, il n'y a pas beaucoup qui pourront vous le dire, je pense.
Oui, j'aurais pas cette prétention. Mais essayer de se dire, tiens, si là, il faut que j'invente quelque chose pour m'en sortir, moi, comment il l'aurait écrit, lui, quoi, en gros.
Et donc...
Je dis pas que ça marche à tous les coups.
Dans cet album, ça marche, mais ouais. C'est vrai que, comme vous l'avez dit, vous avez eu l'intelligence de choisir un auteur décédé, donc...
Oui, il peut rien dire.
Voilà, exactement. Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué le fait que vous avez beaucoup travaillé, beaucoup œuvré pour le cinéma. Si je ne m'abuse, pas que caméraman, vous avez aussi un petit peu participé de temps en temps à l'écriture ou la relecture de scénarios.
Oui, tout petit, mais oui.
Tout petit, petit. Et donc, quand on cherche l'adaptation comme ça, est-ce qu'il y a des images qui viennent en tête? Puisque vous savez qu'à un moment donné, il va y avoir des illustrations. Donc, est-ce qu'on arrive à avoir des images qui vont aider au fil conducteur quand on pique ses phrases, quand on choisit le fil conducteur, justement?
Les images arrivent très vite. Mais j'ai des images, comment dire... J'allais dire générique. Joe en voiture, il peut être dans une 2 d'un bouton comme dans une Oldsmobile ou une 2 chevaux ou une Ferrari. Vous voyez ce que je veux dire?
Je précise pour les auditeurs qui ne connaissent peut-être pas trop bien, Joe c'est le personnage principal du livre, oui, pendant que Joe Pinelli est l'illustrateur.
Ils vont bien ensemble. Donc c'était ouais. En plus il n'y a pas vraiment d'indication temporelle, on ne sait pas très bien ça se passe en fait au moment où il l'écrit. En même temps l'avantage des États-Unis, il y a des coins à circuler qui n'ont pas changé
depuis 19 ans.
Comme dans les vieux films, on voit c'est les vieux pick-up, la vieille dépanneuse et les choses comme ça. Donc on pouvait jouer là-dessus. Donc moi j'avais des images, alors des fois des images je dirais sadiques, mais j'adore. Ça c'est le grand bonheur de l'adaptateur, c'est d'écrire planche 115, Las Vegas, vue de nuit en hélicoptère. Après tu te démerdes.
Oui, je pense qu'il va être content. Heureusement, crois qu'il n'y a pas Las Vegas, me semble.
Non, il s'en est sorti autrement, évidemment. Parce que Joe est un gros lâche, bien sûr. Mais il pouvait
être... Belge, mais lâche.
Belge, mais... Non, mais il s'en est sorti, maintenant, c'était un clin d'œil. Les autres fois, des fois, j'avais des idées... Enfin, moi, j'avais des idées précises, mais qui étaient des idées précises par rapport à l'histoire, je veux dire. Comment dire, pour faire un exemple, il y a une rencontre, la première rencontre de Joe, le personnage, avec celle qui deviendra sa première femme, la première qui quittera brutalement. Est une rencontre, on va dire, assez intense, etc. Il y avait toute liberté, je cite de mémoire, je dirais Joe et Ada, baisse 2 points en voiture, comment dire, à la plage, dans un jeu, où tu veux, sauf dans un lit. Et répéter 4 fois.
Ça laisse quand même pas mal de liberté.
Ah ben, il y avait le choix, quand même. Donc ça, là, après, c'est lui qui, selon son inspiration, il y a d'autres endroits, le cheminement du personnage lui permettait effectivement de ne pas être trop directeur, tout en quand même de... Il y a un endroit qui se passe, je dirais, au bord de la mer, c'est pas à la montagne, il ne faut pas exagérer non plus. Quand même.
Alors justement, là, vous êtes en train de parler des décors. Donc il y a des planches absolument, on est à la radio, on ne peut pas les montrer, mais les planches sont absolument sublimes. Vous n'avez pas eu un moment, puisque c'est une adaptation, l'idée de, vous connaissez peut-être assez bien les États-Unis, mais pas trop, donc de l'adapter vers un pays plus proche?
On y a pensé. J'ai des souvenirs, c'est Joe qui a dû poser la question. Moi, ça m'est pas venu à l'esprit, mais parce que j'avoue que je suis assez terre à terre, mais on aurait pu faire une transposition complètement différente. En même temps, ça aurait été un peu compliqué avec cette histoire-là. Je pensais, par exemple, une des adaptations, des transpositions les plus célèbres, celle de 1275 âmes, de Louis Thompson, qui se passe dans le sud des États-Unis, qui se transporte dans l'Afrique des française des années 20.
Tout à fait, c'est ça. Coup de torchon de Bertrand Tavernier.
Coup de torchon de Tavernier. Alors là, effectivement, c'est une transposition totale, mais qui est une magnifique adaptation, puisqu'il garde l'esprit de l'œuvre, qui est l'espèce de mec qui se révèle l'archange qui va nettoyer la pourriture. Ça, effectivement, ça pouvait se transposer. Moi, on y a pensé pendant 20 secondes. Le problème que j'aurais eu, c'est que pour que Joe puisse fuir, il faut un pays quand même vaste. Il faut des moyens de transport dans lesquels on peut sauter rapidement, etc. Et là, j'avoue, je ne sais pas très bien où j'aurais pu le mettre. Dans le genre Inde, Pakistan ou autre, quand on n'est pas sûr que le bus arrive, c'est compliqué.
Oui, non, mais je pensais bêtement, puisque ce sont les décors qui vous sont peut-être plus familiers, aussi bien à vous, Français, Suisse aussi, et à Joe, Belge, c'était plus l'Europe pour...
Oui, mais l'Europe, c'est plus petit au niveau dimension, je pense, que pour ce genre de fuite.
Oui, on va pas...
Il aurait vraiment fallu recréer complètement. En plus, il y a aussi un argument très important, c'est que non seulement Joe fuit, mais Joe joue.
Oui, donc, c'est un grand joueur, il n'a pas envie de jouer sa vie, mais c'est Keeper Gangs régulièrement.
Ouais. Il y a une métaphore là-dessus, effectivement, au niveau, comment dire, tripot, table de jeu, etc., c'est pareil. Avec Las Vegas, etc., il y a des... je ne veux pas faire de la peine aux camarades niçois, mais enfin, c'est pas tout à fait la même mythologie, on va dire.
Oui, bon, ça va. Bon, donc il n'y aura pas d'image sur le merveilleux casino de Nice.
Non, mais on y avait, je sais qu'on y avait pensé. J'avoue, pendant on a passé 2-3 jours à essayer de voir comment on pouvait transposer. Mais j'allais dire que l'argument était tel que ça posait beaucoup de problèmes. Et je pense en plus que Joe, son amour que je partage pour Hopper et d'autres peintres, ça marchait très bien.
Ça a dû marcher très bien. Tout à l'heure, vous avez parlé des gens qui sautaient en marche et tout. Justement, il y a aussi dans la transposition quelque chose qui est très intéressant. C'est la façon dont vous avez parfois conservé le rythme et parfois, au contraire, c'est l'image qui est rythmée. C'est plus la phrase qui reste dans la case, mais l'image. C'est un truc que vous avez travaillé ensemble ou c'est venu en symbiose, on va dire, un petit peu? Pas non. Évident de conserver un rythme de roman dans une adaptation BD.
Alors là, normalement, c'est ce genre de remarque qu'on fait 300 ans après la mort des artistes, normalement. Là, moi, j'avoue...
Je crains d'avoir du mal à pouvoir faire cette remarque dans 300 ans.
Jusqu'à là, je sais pas. Je sais que très vite, il s'est trouvé que c'était le, comment dire, pour les gens qui mettront le nez dans l'album, il y a une technique, je veux dire, c'est pas la technique classique de BD, petit carré avec petit carré, enfin, ça s'appelle le principe de case, mais c'est une chose que, il y a plus de 10 ans que j'avais déjà, il y avait un projet. Il y avait quelqu'un d'autre qui jouait là-dessus, c'était une vision que j'avais assez. Et en lisant le bouquin, j'ai dit à Joe, moi je le sens bien, je t'avais montré des trucs, l'ancien projet. Comme justement c'est une espèce de fuite en avant, que les choses se répondent, qu'on va mélanger de tous les temps. J'aime bien, comment dire, les dessins, à l'intérieur des dessins, faut vraiment le voir pour le comprendre, on va dire. Et ça, j'avoue que c'est lui qui est rentré dedans, mais très très vite. Il m'aurait dit, ça marche pas, c'est petit carré par petit carré. Bon, il s'en serait sorti parfaitement. Mais il se trouve que cette histoire-là, avec cette technique-là, a marché très bien. Et j'ai envie de dire, en privilégiant le dessin, dans le sens où on n'a pas j'avais pas fait beaucoup de textes, faut être honnête. On a dû en rajouter, pas des masses. Il m'en a fait enlever un peu, avec à bon escient aussi, soit des choses redondantes, soit des choses qui, on a l'impression qu'une fois tapé comme ça, ça marche bien, mais mis dans la page, ça fait con, quoi, pour dire les choses.
Ça fait con.
Mais ça s'est bien goupillé assez bien parce que.
Alors, c'est ce que j'allais dire. Ce qui est assez étonnant aussi, justement, ce fondu entre l'adaptation et puis les illustrations aussi, elle se voit même dans la façon dont l'écrit a été disposé dans les cases. C'est-à-dire que ça correspond parfaitement. D'abord, il n'y a pas de bulles. C'est important. La police d'écriture participe, moi, je trouve, à la fuite.
Alors ça, je vois. Dire que le texte était aussi, j'allais dire, était composé en fonction de le... J'ai fait un premier jet des premiers, comment dire, une première vision, et très vite, Joe m'a envoyé 3-4 planches du début, comme ça fonctionnait. J'allais dire, on écrit en fonction de la chose. Là, j'ai oublié de dire, je suis en train de travailler sur une autre adaptation pour la même collection, dans un genre complètement différent, et je sais que ce sera là, par contre, je veux dire, pour moi, c'est pas péjoratif, mais ça va être, comment dire, la planche classique en case. Et pas du tout ce genre de technique-là. On écrit complètement différemment parce que les informations vont se donner autrement. Mais là, c'était sûr, comme c'était récit, je savais qu'il y aurait beaucoup de ce qu'on appelle les cartouches. C'est les textes qui ne sont pas les dialogues. Trouver à pas être redondant, à donner de quoi, comment, matière à Joe. Je l'avais dit aussi, là, j'écris ça, mais si ça se trouve, par le dessin, on enlèvera trois adjectifs, quand même.
Et donc, je reviens pour terminer sur cet album avant qu'on termine l'interview parce que le temps passe vraiment très très vite. Je reviens à une de vos premières remarques. Est-ce que ce travail, ça vous donnerait pas envie d'adapter un de vos propres romans, y compris peut-être un polar jeunesse? Maline la question.
Rusant pour les enchaînements. Personnellement, non, pas forcément, parce que comme au cinéma, je pense que l'auteur est son plus mauvais adaptateur. On est trop dedans, il faut un regard extérieur. Oui. En scénario de cinéma, on peut trouver des co-scénaristes, ce qui peut aider. Si on se met à plusieurs scénarios de BD, c'est un peu plus compliqué. Moi, j'ai pas trop envie, parce que c'est des choses que j'ai déjà faites. J'aurais plutôt envie de m'essayer à d'autres.
À d'autres. Et c'est ce que vous êtes en train de faire, me semble-t-il, d'ailleurs.
Oui, ou alors, pourquoi pas écrire directement un scénario de BD, mais sans l'adaptation?
Ah, ça, tout à fait. Enfin, je vois comme un scénario de cinéma, sans forcément une adaptation, moi, je milite pour le scénario original, mais ça n'empêche pas que je peux faire autre chose. Sur BD, là, faudrait trouver, pareil, l'adéquation de le... Qu'est-ce qu'on va bien raconter avec Joe? Il y a 2-3 projets en l'air, je ne sais pas si ça marchera un jour. Mais c'est un peu différent, parce que là, pareil, on rentre dans une chose un peu plus dans l'inconnu.
Mais c'est un travail totalement différent. Alors, contrairement à votre remarque insidieuse de tout à l'heure, avant de terminer sur le polar jeunesse, j'aimerais qu'on évoque juste un joli recueil, une autre de vos actualités, qui s'appelle « Au stand, au bout de l'Est ».
Oui.
Donc, vous avez écrit une nouvelle, il y a cinq autres auteurs, à partir de photos de Cyril Desruineaux. Ostende, ville de l'Est belge. Et votre nouvelle s'appelle Arthur, c'est le nom, pardon, du héros. Arthur Rimbaud, c'est nul à le dire comme ça, parce que Rimbaud, ça s'écrit R-A-I-N-B-O-T. Et pour faire sourire un peu nos auditeurs, le titre, c'est Fin de saison en enfer, évidemment. Comment vous avez travaillé là? Vous avez choisi les photos ou les photos vous étiez imposées?
Les photos ont été imposées. Là, il faut préciser une anecdote rapide. J'ai travaillé avec Cyril ensemble. On a fait un roman photo, un atelier roman photo polar en milieu scolaire l'année dernière. Enfin, un projet absolument somptueux. Le mec est adorable. Et un jour, il m'a envoyé une vingtaine de photos justement sur Ostende. Et en les sortant de l'enveloppe, en les regardant telles que sorties de l'enveloppe, il y avait une histoire. Donc ça, je lui ai dit, je vais de côté, j'ai numéroté, et puis quelques temps après, il renvoie une nouvelle série en disant, bon, il y a une commande, il y a un éditeur. Mais alors, je dis, attends, moi j'étais habitué à l'autre série, donc je mets de côté, je ne désespère pas de récupérer mon premier texte, d'en faire un deuxième sur l'autre point de vue. Donc les photos étant dans l'ordre, et j'ai pris le même principe, je ne change pas tel que c'est sorti, numéroté de l'enveloppe, l'histoire va se construire comme ça.
Concocter l'histoire autour.
Ouais, comme on était un peu limité en place, il y avait je sais plus quoi, enfin 25-28 photos, donc ça s'étale sur deux semaines avec les dimanches, de dimanche à dimanche sur 15 jours.
Voilà, c'est à 15 jours, j'allais le dire, de dimanche à dimanche. Et donc, il a été conservé dans. C'est vraiment, j'ai dit tout à l'heure, un joli recueil, mais c'est vraiment un joli petit objet littéraire. Et si je ne m'abuse, il a été conservé trois photos dans le texte donc, qui raconte 15 jours d'Arthur, entre autres dans un hôtel de stand.
Je n'ai pas tout vu parce qu'elles sont débarrassées. J'ai gardé une photo de tête, une photo de fin pour la première et dernière page, et après ça marchait par pair, pour ça, parce que sinon ça, j'aurais fait trop long.
Voilà, mais alors je signale quand même l'éditeur, c'est l'éditeur Le Bec en l'air.
Le Bec en l'air.
Voilà, et 30 secondes. Pour évoquer la sortie d'un dernier livre jeunesse, en fait c'est une réédition et ça s'appelle Le Feu au Lac.
Ouais.
C'est paru dans la collection Poivre chez Rouge Chaffran.
Oui.
Voilà, donc je crois que j'ai donné à peu près toute l'actualité. Dernière question, le futur, dans un recueil de nouvelles, un roman adulte, un polar jeunesse?
Bah, le futur, ça va être renormalement, si tout va bien, toujours Poivre à Rouge Chaffran. Le camarade Freddy, qui remplace le Furet, va revenir. Les deux aventures du Furet, normalement, sont prévues. Et j'avais promis d'en faire une troisième, voire une quatrième. Je m'y penche dessus cet été. J'envoie le petit camarade Freddy au fin fond de la jungle indienne et je lâche les tigres dans la nuit.
Faites attention, les tigres sont en voie de disparition.
Oui, mais il me reste suffisamment pour faire peur, normalement.
Bon, tout va bien. Jean-Hugo Pell, merci beaucoup de votre visite.
Et
puis, à bientôt. Au revoir.
Au revoir.